Normalement, les béatitudes dans les évangiles, c'est dans les sermons sur la montagne de Saint Matthieu. Chapitre 5 et suivant, Jésus enseignait sur la montagne. En haut de la montagne, il est assis. Et puis les disciples se mettaient autour de lui. Et il enseigna longuement. Chapitre 5, 6, 7, enfin, tous les chapitres, ces chapitres de l'évangile de Saint Matthieu. Et aujourd'hui, donc Jésus descend de la montagne. Il descend de la montagne. Il se retrouve dans une vallée immense, plate. Et là, il y a des foules qui viennent de Jérusalem, qui viennent de toute la Judée, hein, tout ça, c'est au sud, qui viennent de la Judée, qui viennent de et puis qui viennent de là, mais pas seulement du sud, mais qui viennent aussi du nord, là-haut, qui viennent de Beyrouth, de Tyr, de Sidon, le littoral de la Phénicie, enfin, ils viennent, et là, il y a une foule sur une vaste étendue, plate. Alors, il dit dans Saint Matthieu, il lève Jésus s'assied au sommet de la montagne, et puis il lève les yeux vers le ciel. Et il dit heureux les pauvres en esprit, et il donne les béatitudes, heureux. Donc cette fois-ci, c'est l'évangile de Saint-Luc aujourd'hui, sixième dimanche. Alors il descend. Et il ne lève pas les yeux au ciel. Il dit, si vous avez entendu, il a entendu Jésus leva les yeux sur ses disciples. Jésus leva ses yeux. Jésus lève les yeux vers la montagne. Quand il lève les yeux vers la montagne, au-dessus des montagnes, il y a Jérusalem. La Jérusalem véritable, la véritable Jérusalem. Il est le véritable Melchisédek, sans engendré, non pas créé, sans principe, sans fin, je veux dire, qui a fondé Salem. Il lève les yeux vers cette Jérusalem, qui est son épousée victorieuse de tout ce qui n'est pas la béatitude, ce qui n'est pas. Et de là, dedans, il plonge ses yeux dans la Jérusalem qui est au-dessus des collines, au-dessus des montagnes. Il y a la Jérusalem, il lève les yeux. Bon, c'est en Jérusalem qu'il y a le Saint des Saints, la paternité profonde. Puis là, il lève les yeux vers ses disciples. En descendant de la montagne, il lève les yeux vers cette multitude. Et puis dans cette multitude, il y a les disciples. Eh bien, il lève les yeux vers ses disciples. Et il dit heureux, vous les pauvres. Et il donne les béatitudes de Saint-Luc. Ben, faut pas dire, voilà. On tient la preuve que Saint Matthieu et Saint Luc se sont trompés. Ben, il y en a un des deux qui se trompe. Hein. Mais aucun des deux ne s'est trompé. Il a dit, il a fait les deux. Et les deux de cette manière-là. Et donc là ici, quand il lève les yeux, c'est au moment où il descend de la montagne, il descend justement hein, de la Jérusalem nouvelle, ça exprime son retour, hein, bien sûr, de sa divinité, de la Jérusalem nouvelle, du fond de la Trinité toute sainte dont il est. Il descend, et il vient, montagne, il vient dans la vallée d'Armageddon. Il n'y a qu'un seul endroit en Palestine, en Israël, un seul, où il y a une vallée comme ça, immense, à perte de vue, jusqu'à l'horizon. C'est l'Armageddon. Et dans l'Apocalypse, l'Armageddon, c'est immense, immense, immense. Et donc il descend et il lève les yeux. Ah, ça prouve que là, il trouve la Jérusalem au milieu de ses disciples. Il lève les yeux. Hein. Ça veut dire qu'il plonge son regard dans la paternité, la très sainte Trinité, à l'intérieur de ses disciples, dans le Saint-Dessin. L'Armageddon, c'est l'Apocalypse. Et il dit, donc c'est béatitude, ben, Jésus, attention, le bonheur de la terre, être heureux. Être heureux sur eux. Il dit heureux, heureux. Être heureux sur la terre, être heureux dans le ciel. Et la béatitude, c'est pas pareil. Ça ne veut pas dire la même chose. Il dit. Alors, les gens cherchent le bonheur, on dit toujours ça. Le monde, l'homme cherche le bonheur. C'est pour ça qu'il va quelquefois, certains vont vers Jésus, parce qu'ils cherchent le bonheur. Ils veulent être rassasiés, ils veulent pouvoir ne pas travailler et manger à satiété, et en plus un vin bien meilleur que tous ceux qui vont fournir par un travail harassant toute l'année. Un pain bien meilleur, délicieux, qui s'adapte en plus, comme dit le livre des Proverbes, la sagesse. Un pain qui s'adapte au goût de chacun, si toi tu aimes. Ça s'adapte à ton goût, à toi. Ah, les gens, ils n'ont pas besoin de travailler dans ce royaume où on va être heureux, on va être heureux. Sans nous nourrir des sept pains qui venaient de multiplier. Ils étaient 7000. Et il en restait 4 corbeilles pleines, ça veut dire c'est de quoi rassasier toute la terre, toute la création. Cette fois, à partir de 7 pains et des petits poissons, hein, 7, il les a rassasiés, il les a nourris après 3 jours où ils n'avaient rien mangé. Ils étaient avec lui, quoi. Hein, c'est ça. Et tout ça, c'est extraordinaire, ce que Moi, je suis drôlement content d'être ami avec les 12 apôtres parce que j'aime bien venir dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit et mettre ma présence dans la leur et regarder tout exactement comment Jésus faisait, parlait, vivait et opérait toutes ces choses. Il n'annonce pas le bonheur. Je ne suis pas venu vous annoncer le bonheur. Le bonheur. Et vous voulez me faire roi, du coup, hein, parce que comme ça, vous serez dans le bonheur. Non, 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 je vous ai apporté. Je suis venu vous annoncer l'évangile des béatitudes. Heureux, ça veut dire. Là. Vous pouvez jaillir de la terre, bondir sur les collines, bondir sur les montagnes, vous élever librement dans la Jérusalem dernière. C'est ça que ça veut dire heureux. Ça veut dire courons. Vous pouvez vous lever et courir. Si vous pouvez courir, vous serez libre. Une liberté. Plus aucune entrave vis-à-vis des choses de la terre, plus aucun attachement au bonheur de la terre, plus aucun. Vous êtes libre, libéré de toute entrave, immaculé, léger, vous pouvez voler et jaillir, et bondir, heureux, c'est ça que ça veut dire en hébreu. La béatitude, vous allez pouvoir vivre en participant. Mais physiquement aussi, à ma résurrection, je suis le premier-né d'entre les morts. vous allez avoir la même liberté que moi, dans une agilité, une souveraine liberté. Vous allez pouvoir entrer dans la Jérusalem Noël, dès cette terre, quoi. Hein? Parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes humble, à cause de l'humilité. Bienheureux les pauvres, heureux les pauvres. Voilà, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Et celui qui est pauvre, il est enraciné. Il est enraciné dans la terre, mais il dit à cet arbre dont il est racine de s'arracher une terre de désolation méchomique. Hein, c'est bien ça qui est écrit dans le livre d'Isaïe aujourd'hui. De Jérémie, je crois. Oui, de Jérémie. Voilà. Et au lieu d'être un arbre, un espèce de buisson épineux, immonde, au milieu d'une terre méchomique, de la terre du méchome, d'une terre méchomisée, du chicoutsi méchant même, où tu peux t'arracher l'arbre que tu es, parce que tu es pauvre, donc tes racines plongent cachées dans le corps spirituel, dans le torrent de la Jérusalem nouvelle qui est Marie. Alors du coup, oui, tu peux arracher avec elle l'arbre de vie hors de cette terre de désolation et la planter, la transplanter dans les océans de lumière et d'allégresse, de liberté, d'immaculation, d'agilité et de subtilité, de l'anastase qui donne des gouttes délicieuses de ressaisissement à tous ceux qui font partie du royaume des béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les pauvres, heureux les pauvres. Ah ouais, ils peuvent du coup se mettre en route, en avant. Voilà, on dirait comme ça, ça peut se traduire comme ça. En avant, allez-y. Les pauvres, vous, les pauvres. Parce que le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu, c'est le cinquième sceau de l'Apocalypse. Dans l'Évangile, le royaume de Dieu, c'est le cinquième sceau. On dit, quand dit notre Père, parce que c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. Quand dit notre Père, à la fin, on rajoute ça. C'est à toi qu'appartient le royaume. C'est pardon, quand il ouvre le cinquième sceau de l'Apocalypse, le royaume de Dieu apparaît. Et on peut voler vers la Jérusalem nouvelle. On peut voler. On peut se mettre. On peut m'aimer librement et s'engloutir et pénétrer dans la Jérusalem nouvelle du royaume des béatitudes accomplies dans le corps spirituel venu d'en haut. Au milieu de la terre, au milieu de cette vallée de larmes, au milieu de ce monde, heureux, vous qui pleurez maintenant, heureux, vous qui êtes nourris de vos larmes, on est nourris des larmes parce que la béatitude, ça, ceux qui pleurent, quoi, ceux qui pleurent, ceux qui ont l'Esprit Saint, pleure l'esprit de la connaissance, la pleine connaissance de Dieu. Lorsque tu la reçois, tu peux t'envoler. Tu es pas seulement dans une agilité, tu es dans une subtilité. Une lumière, un détachement, une impassibilité. Tu ne souffres que d'une seule chose. C'est la consolation du Saint-Esprit, parce que tu te détaches des choses de la terre. Et c'est vrai que c'est à cause de ça qu'elle est là, l'esprit de science de Dieu, dans les sept esprits de Dieu. Et tu te nourris, du coup, de la véritable nourriture. C'est Saint-Bernard qui disait ceci. Et en fait, s'il y avait sept corbeilles, s'il y avait sept poissons, s'il y avait 7 000 hommes, la multiplication des pains qui fait la médiation, hein, c'est l'Eucharistie qui fait la médiation, on est d'accord. C'est parce qu'il y a cette nourriture, hein. Tu es pauvre, hein. Ouais, tu es pauvre, tu es humble, c'est l'humilité substantielle qui est l'interface d'une consolation substantielle. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Le fait d'être détaché des siens, de ce qu'on aime, détaché, et qu'on puisse s'envoler, pénétrer librement, sans aucune entrave, dans le royaume de la paix, là où il a fixé sa tente, il fixe ses yeux vers le ciel. Et là maintenant, il fixe ses yeux, il lève les yeux vers les disciples, dans le fond des portes de la Jérusalem. Et oui, il y a sept, pourquoi? Parce qu'il donne la nourriture, comme ça, à la création tout entière. Il reste quatre corbeilles, parce que quand il s'adresse à tous ses disciples, eh ben, il leur donne. Et ses disciples sont pauvres et donc affamés. Il faut les désaltérer aussi. Et ils aspirent nuit et jour, altérés. À pouvoir partir, à pouvoir rentrer, à pouvoir faire partie de l'église apostolique, de l'église de la fin, de l'église une, sainte, immaculée, celle qui est exactement semblable à toutes ces liquéfactions délicieuses, merveilleuses, pacifiantes à la puissance 1000 de la Jérusalem, de l'Église. Hein, tout cela, voilà, ils sont affamés. Alors du coup, ils multiplient les pains, les petits poissons. Eh oui, ils multiplient. Et cette fois, ça, je trouve ça extraordinaire, cette la totalité, 1000 de l'Immaculée Conception, présente dans cette vallée, quoi, de la caresse eschatologique terminale du royaume de Dieu qui s'ouvre dans le cinquième sceau. Pourquoi? Parce qu'il y a cette manière de se nourrir de Dieu, de se nourrir du Père, de se nourrir de l'épousé, de se nourrir du Saint-Esprit, de se nourrir de l'amour. Et ce qui compte, c'est évidemment l'amour. Si tu n'as pas d'amour, c'est la charité, eh oui. Alors Saint Bernard, il disait hier ça, il disait les sept, c'est « Je me nourris de la divine éternelle volonté de Dieu, du Père. » C'est ce que dit Jésus dans Saint Jean d'ailleurs. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » C'est la première nourriture. Ces gens-là, dans la pauvreté, ils sont à... Ils ouvrent la bouche large, comme dit le psaume 80, large, ils ouvrent la bouche, pour qu'être remplis, et que leur âme, leur corps, leur chair, leur esprit, leur âme, leur corps, leur chair, leur sang, leur esprit, leur cœur, soient remplis du soleil brûlant de l'amour et de la volonté incréée éternelle du Père. Christ, qui entend dans le Christ, me voici pour faire ta volonté, dès sa conception. C'est la première nourriture, la seconde de nourriture qu'on trouve dans Saint Jean, c'est la parole de Dieu, quand le Père, dans sa divine volonté, dans son soleil brûlant d'amour, nous nourrit, et ben, il fait éclater à l'intérieur de ce royaume de l'amour, de la volonté. De sa volonté qui est la sagesse de la croix. Dans les derniers sauts de l'Apocalypse, de la croix glorieuse, il la fait éclater en lumière. Et il exprime donc tout ce qu'il est. C'est le Verbe de Dieu. Le Verbe est devenu chair. Il a envoyé le Verbe au milieu de nous. Le Verbe est au milieu de notre monde. Le monde ne peut pas le recevoir, mais ceux qui le reçoivent, les pauvres, et les consolateurs du Père sont dans la lumière du Verbe. Ils sont transplantés dans le Verbe. Ils subsistent dans le Verbe de Dieu. Ils reçoivent la grâce du royaume de Dieu. Et c'est des torrents, des fleuves intarissables qui jaillissent de la poitrine commune du Verbe de Dieu incarné et des disciples de l'Église tout entière. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu est une nourriture. Saint Jean qui dit ça dans l'Évangile aussi, ma parole est une véritable nourriture. Et évidemment, il y a la nourriture du Christ. Le Christ se donne. Le Christ est envoyé pour être notre nourriture. Il vient, il descend du ciel. Il descend de la Jérusalem d'en haut. Il descend de l'Immaculée Conception glorifiée. Hein. Il descend dans la vallée de l'Armageddon, de la dernière guerre eschatologique. Et il dit, celui qui mange ma chair, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie, je suis le rassasiement et les délices éternels de l'époux du Père. L'épouse le rassasie, le comble. Je suis le pain qui descend du ciel. Je suis la vraie nourriture. Je suis ma divinité éternelle et incréée envoyée est une nourriture, une vraie nourriture. Mais la quatrième nourriture, c'est dans le psaume 79, je crois qu'on le trouve. Je me rassasie, c'est un rassasiement de l'océan de mes larmes, c'est la pénitence. Ceux qui se nourrissent de pénitence, ceux qui se nourrissent, c'est évident que c'est une nourriture, le psaume le dit. Les pauvres, quelqu'un qui ne s'arrache pas au mal, ne s'arrache pas à son orgueil, ne s'arrache pas, ne fait pas pénitence, en faisant pénitence, en pleurant sur tes péchés, quoi. Et la nourriture, celui qui fait pénitence, c'est le psaume 79, ça. Il se rassasie, c'est sa nourriture, de ses larmes. Tu te rassasieras de toutes tes larmes. Et puis, bien sûr, il y a après le tu te nourriras, enfin, de la charité, disons. Celui qui se nourrira de la charité, c'est-à-dire du corps mystique, vivant, de Jésus vivant et entier sur la terre, celui qui se nourrira de l'Église, il sera le tabernacle du corps mystique de l'Église, il se nourrira de l'Église. L'Église, c'est sa nourriture. La Jérusalem dernière, la Jérusalem primordiale, l'Église primordiale, c'est sa nourriture, il se nourrit celui-là, c'est sûr. Le corps mystique du Christ vivant, Jésus vivant et entier, c'est notre nourriture à ceux qui sont les membres vivants, Jésus vivant. Et enfin, la septième nourriture, c'est sûr, c'est l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Tout est accompli. Quand il dit ça, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il a le pain dans la main. C'est le dernier pain, c'est la dernière scène. Il prend le pain dans la main et il lève les yeux vers le ciel. Il bénit. Et il dit tout. Il lève les yeux vers le ciel et son regard vers le ciel est resplendissant, brûlant, glorieux, extraordinaire. Il déborde d'une gratitude flamboyante. Et il dit, ceci est mon corps. Et il institue l'Eucharistie, la septième nourriture, telle qu'il récapitule les sept autres, les six autres. Et puis il dit, tout est accompli. Quand il a fait l'Eucharistie avec Saint Jean et les autres apôtres, il dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il s'est réfugié, il s'est englouti comme Dieu, comme prince de la résurrection, comme juge des vivants et des morts à l'intérieur de l'hostie jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est notre nourriture. Et il est caché, il est au milieu du monde, dit Saint Jean, le dit dans le prologue. Ben oui, bien sûr, la lumière, le verbe. Verbe, c'est Dieu, celui qui crée, celui qui est dans la très sainte Trinité, dans le face-à-face de Dieu le Père, celui qui illumine et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter, celui qui suscite Yohanan pour dire tournez-vous vers lui, la lumière c'est le verbe est la lumière véritable, qui illumine, c'est lui qui illumine tout homme au moment où il le crée, dans la première conception, avant sa naissance, c'est, il l'illumine, c'est lui, il est dans le monde. Il est dans le monde qu'il a lui-même créé, et il est ici dans le monde qu'il a lui-même créé, il y est parce que il veut donner sa propre vie et communiquer sa propre vie à la création tout entière. Mais le monde ne peut pas le connaître, hein, le monde ne peut pas le connaître. Ah, mais s'il est dans le monde, et pour communiquer sa propre vie à la création tout entière, c'est l'Eucharistie ça. Et tout est accompli, c'est notre nourriture, les sept nourritures de la multiplication. Sont le rassasiement et les larmes de consolation des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors après, il dit, ben voilà, il y a aussi ceux qui... du coup, les ricaneurs se moquent des pauvres. Alors, on t'insulte parce que on se moque de toi. Tu es moins que rien. Heureux. Et ben heureux. Voilà la troisième béatitude de Saint-Luc. Quand ils vous insultent, ils vous rejettent votre nom comme méprisable. À cause du Fils de l'homme, ils vous regardent comme méprisable. À cause du Fils de l'homme, à cause de celui qui descend pour ouvrir le cinquième sceau de l'Apocalypse et le sixième sceau. À cause du Fils de l'homme, à cause de moi, Jésus de Nazareth, qui descend sous la forme de la croix glorieuse dans le cinquième sceau, à cause de ça, vous êtes insultés, vous êtes méprisés. Alors là, vous êtes haïs, vous êtes exclus par les hommes. Alors à ce moment-là, c'est la béatitude pour vous, parce que du coup, vous pouvez vous envoler librement, et ils ne le verront même pas, que vous êtes dans une béatitude insatiable, sans limite, sans fin. Mais après, ensuite, Jésus dit, malheur, c'est comme dans sa Matthieu, remarquez bien, malheur pour les riches, parce qu'ils ont tout, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont leur consolation, les orgueilleux, quoi. Malheur, ils sont dans le malheur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils sont gonflés dans la boue du méchaume. Ils sont agglutinés dans le goudron absolument infernal, des couches entières. Ils ne peuvent pas nager dans cette espèce de gluante. Ils sont prisonniers. C'est ça, malheur. Les riches sont englués dans les choses terrorisées. Malheur, ils sont gavés. Quoi. Ils ont tout. Ils sont gavés. Les chicoutes si méchants, ma misère, ils sont repus. Ils sont malheurs. C'est parce que ils se réjouissent. Ils font des grands. Ce sont les pornocrates. Ils se réjouissent du malheur. Ils se réjouissent de la torture des enfants. Ils se réjouissent d'adrénochrome. Ils se réjouissent malheur. Ils sont complètement englués, complètement enfermés, complètement ligotés, complètement... Et est-ce que tu crois qu'ils peuvent voler librement, hein? Ils n'ont aucune liberté, strictement, hein? Malheur. Parce que les hommes les vénèrent, ils votent pour eux. Et ils leur donnent toutes les richesses de la nation et des peuples. C'est tout pour eux. Rien pour les pauvres, rien pour les enfants, strictement rien pour la conception. Plus rien. Et bien ceux-là, et ben ils sont engloutis. Engloutis dans le malheur, c'est-à-dire dans le contraire, dans l'impossibilité jour du cinquième sceau de l'Apocalypse, ils seront affamés. Et ils ne seront pas désaltérés. Ils seront assoiffés, leur bouche sera sèche, comme, mais sèche comme de la farine, je veux dire, agglutinée à du goudron, quoi. Ils seront secs. Leur langue sera sèche, vous savez, quand vous avez, quand le palais, là, ils seront pas désaltérés du tout. Au jour du cinquième saut de l'Apocalypse, là, ils seront affamés, ils seront assoiffés. Et ils vont pas rire, là. Là, ils vont pas ricaner. Ah non, 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 non. Ils seront dans... Ils seront terrassés, ils seront engloutis dans l'océan d'un tartare qui n'est pas fait avec du feu, mais qui est fait avec un emprisonnement de toutes parts, une espèce d'océan de boue, de goudron, de pollution, quoi. Alors, on est quand même arrivé en l'an 2022. Nous avons ce mois de février qui est le mois de l'enfance. C'est le mois des enfants. Et il se passe les choses, c'est sûr que les rumeurs de guerre, il est dit dans les prophètes, parce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on traite les vrais prophètes. On ricane, on se moque d'eux, mais n'empêche qu'ils ont annoncé ce qui va se passer cette année, 2022. C'était annoncé, hein. Il va y avoir... Nous sommes prêts, hein. C'est le sixième dimanche, c'est ordinaire, mais c'est le mois de l'enfance. Il va y avoir une détresse comme jamais. Comme la seule qui lui soit semblable, c'est celle de la terreur de la révolution. Il va y avoir quelque chose d'effroyable. Parce que, bon, et on le sait. Et alors, le sommet du malheur, ce sera là, ce qui va surgir de la terre du véritable Israël de Dieu, qui est le royaume qui doit donner son fruit au peuple de Dieu n'a pas donné son fruit, donc c'est le royaume de France qui doit donner son fruit à toutes les grâces messianiques de Dieu depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde, de cette terre là qui est le royaume de France, de l'humilité substantielle et de l'océan des larmes des apôtres des derniers temps, quoi, hein. Là va surgir, hein, une détresse, un malheur, là, dans l'an 2022, qu'ils vont donc engendrer comme un démon peut engendrer un dragon, hein, 10 fois pire que lui. Ils vont préférer cela, de faire jaillir ce malheur cette année, plutôt que d'être démasqués comme étant des démons incarnés. C'est cette année, nous devons faire pénitence, hein. Nous devons nous nourrir des 7 nourritures. Nous devons rentrer déjà librement pour plonger nos racines vers le torrent du corps spirituel et des écluses de liqueurs délicieuses et immaculées, de la pacification, de la liquéfaction, de la béatitude de la Jérusalem dernière qui doit en émaner. Parce que le temps va s'ouvrir. Heureux, si vous le faites, parce que le royaume de Dieu, le cinquième sceau de l'Apocalypse, c'est à vous. Alors là, vous serez au milieu de ce malheur, mais rassasiés, en paix, apôtres des derniers temps. Et vos larmes seront des larmes de la présence du paraclet. Et vous serez les véritables prophètes annoncés par tous les temps anciens et tous les temps futurs. Ah, cette année, c'est l'appel, vraiment, hein. On le voit, tous les prophètes, hein. Moi, je peux les nommer, hein, les prophètes. Hein. Anne-Marie Bijaini, pour les anciens, et les anciens et les nouveaux. Le père Rodriguez, m'excuse, mais enfin, le Seigneur l'a ressuscité deux fois. Il est mort deux fois, il est ressuscité deux fois. Et tout ce qu'il dit, c'est... Et tout ça, les trois blancheurs, les trois blancheurs sont notre nourrisson. Nous nous nourrissons de ces trois blancheurs parce que c'est ce qui repousse l'heure du malheur qui doit tomber sur la terre tout entière. Il y a des prophètes, bien sûr. Nous ne sommes pas perdus du tout et nous vivons aussi de ce désir extraordinaire de l'unité, de la Pâque, de la résurrection. Quoi, tu penses qu'il n'y a pas de résurrection? Il y a des gens chez vous qui disent on a eu des vies antérieures. Il y a des gens qui disent chez vous il y a des gens qui disent la mort c'est rien, on va dans la lumière, on fait des NDE, c'est merveilleux. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour et de la lumière dans les NDE des énergies cosmiques. Et de toute façon, on revient ensuite, on s'inquiète pas. Et on revient, et on a des. Il y a une réincarnation, c'est pas une réincarnation grossière, mais pas. Alors donc il n'y a pas de résurrection. La résurrection, c'est symbolique, c'est éthérique. Donc il y a chez vous, l'épître Corinthien, quoi? Il y a chez vous des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Mais s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que la résurrection n'existe pas. Et donc ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Donc, mais bien sûr que si, il y a la résurrection. Et il insiste, aujourd'hui. La résurrection. Bien sûr qu'il y a la résurrection. Eh bien, les enfants des béatitudes peuvent courir, voler vers le corps spirituel venu d'en haut pour être les germes, les sources dans le temps de la terre pour toutes les multitudes de la terre de leur résurrection. Parce que si le royaume de Dieu, dans toute sa gloire au cinquième saut de l'Apocalypse, les aspirent, les attirent, les recueillent et font leur demeurance, c'est pour aller jusqu'au royaume dans toute sa puissance. C'est-à-dire le sixième saut de l'Apocalypse. Un sera pris, l'autre laissé. Et deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé, un sera dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Le royaume dans toute sa puissance, l'emportement à l'intérieur des noces délicieuses, des sept nourritures en une seule pour le rassasiement et pour la purification par le feu de tous ceux qui sont restés parce qu'ils étaient encore un petit peu rattachés aux choses de la terre à cause du point d'orgueil. Malheur à vous les riches, à cause du point d'orgueil, à cause de la vanité. À cause de la vanité, ils ont une vie d'une totalement vaine. C'est des vaniteux, quoi. Ils sont attachés. Malheur à vous, vous qui riez maintenant, ils sont attachés au bonheur. Ils sont attachés au bonheur. Mais le bonheur, c'est le contraire de la béatitude. Ils sont attachés à ça. Alors du coup, ils ne sont pas emportés dans les délices du royaume de Dieu, de la Jérusalem, de l'esponsalité, corps, âme et esprit, de la terre. Le Saint-Irénée, elle a dit, attention, les mille ans de l'Apocalypse sont une réalité incarnée dans l'histoire du monde et l'histoire de l'Église. La floraison, de la béatitude de l'Église, elle aura lieu. Alors vous dites certains que la résurrection n'existe pas. Mais si c'est ça, ça veut dire que la béatitude n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes nous qui avons, nous nourrissons entièrement, complètement, surabondamment de Jésus, Nazareth, Christ, entier, vivant, en étant humain. Ça veut dire qu'on est plus malheureux de tous les hommes. Les plus imbéciles, les plus crétins, on s'est fait complètement avoir. Mais complètement. Bien sûr que la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Eh bien, le royaume de la résurrection, quand on dit dans notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le royaume, cinquième saut de la puissance, ben voilà, La puissance, c'est l'Église dans toute sa puissance. Toute sa puissance d'amour et de charité. Et ce qui compte le plus, c'est la charité, c'est l'amour. Il faut avoir un amour fou pour les autres. Il faut susciter l'amour. C'est à ça qu'on est jugé. On n'est pas jugé parce qu'on a eu quelques dérapages. On est jugé et reçu immédiatement. S'il y a de l'amour en nous, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, alors l'amour attire. L'amour, c'est bon, c'est de la bonté. Hein. C'est de la bienveillance. Hein. C'est pas laisser quelqu'un crever et aller en enfer directement. C'est visionnant. C'est d'être prophète pour lui. C'est d'être un libérateur, un corps rédempteur. Je sais pas comment dire. Il faut beaucoup d'amour. Il faut avoir un amour fou pour les gens. Pour les hommes, pour ceux qui nous sont proches, pour ceux qui nous touchent, pour ceux qui nous voient, pour ceux qui sont en contact avec nous, pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui nous entendent, pour avoir un amour fou pour nos ennemis, un amour fou, mais fou pour nos ennemis, un véritable amour, c'est la charité. Et du coup, ce feu d'amour va attirer tous ceux qui ne seront pas dans le sixième saut de l'Apocalypse, hein, c'est-à-dire dans le corps spirituel de résurrection. Dans le sixième tour de l'Apocalypse, l'Église, on va ressusciter comme le Père Rodriguez. Hein. On sera ressuscité. Hein. On sera sur la terre, mais ressuscité. Hein. Je veux dire, c'est la première résurrection. Avec les enfants avortés, on sera ressuscité. Eh ben, dis donc. Et on va vivre de cette messe extraordinaire, cette mission divine du Paraclet dans les fleuves intarissables. De ce qui fait les délices de la paternité de Dieu, de cette terre, ensemble, ce sera les mille ans de l'Apocalypse, c'est de vivre cette paix délicieuse, mais inouïe, glorieuse, anastasique, résurrectionnelle, mais de cette terre, avec Marie, avec Joseph. Et l'église triomphante et l'église militante sont une seule église de lumière et de paix absolue et totale. Jésus lève les yeux vers le ciel, Jésus lève les yeux vers ses disciples. C'est aujourd'hui, hein. C'est cette année, hein. C'est l'an 2022, hein. C'est cette année que, heureux, hein. En avant, hein. En avant, en avant. Ne restez pas agglutinés dans votre confinement, hein. Les méchomiques, hein. Surtout pas, hein. En avant, volez. Volez. Vent le vol de ce colombe. Vent le vol. Amen. Moi, je dis attention, la véritable émeute, c'est l'émeute spirituelle. Il faut faire une guerre sans merci, hein. Mais sans merci d'amour, hein, de lumière et de paix. Oui, bien sûr. Et voilà. Et du coup, on recouvre la terre d'autre chose que l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hein? Vous le savez, ça, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le patriarche de Moscou, Hilarion, est venu et a participé avec le non symbole représentant du Saint-Père à Paris, devant la couronne d'épines. Et oui, pendant ce temps, le pape, lui, eh ben, il utilise la grâce joannique de Saint-Irénée pour que il y a l'unité de la Pâque orthodoxe. Pendant qu'on fait ça, vite, il faut vite, recouvrir tout ça. Et mettre à feu et à sang le peuple, le véritable peuple du véritable Israël. Cette année, hein, tous au précieux sang, tous, ça c'est cette nourriture. La parole de Dieu, tous. Et puis c'est tous aux trois mains, j'allais dire, pour écarter, prendre autorité sur les démons, sur le mal qui se répand, sur leur arrogance. Cette année, c'est probablement l'année la plus importante qui soit pour l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse.